Je vous rappelle cette nouvelle pas mal de dernière heure, le rapporté par Radio-Canada, le gouvernement canadien qui va annoncer ce matin une réplique au tarif douanier américain de 25% imposé depuis minuit sur l'acier et sur l'aluminium. C'est une source fédérale au placé là, qui indique que le Canada va imposer des droits de douane sur des marchandises américaines de 29,8 milliards de dollars. Selon les infos de Radio-Canada, il y a différents produits qui seront visés, pas juste les importations américaines d'acier d'aluminium parce que c'est pas assez important, fait qu'il faut aller frapper ailleurs aussi. Le gouvernement canadien qui va donc aller piger là, dans sa liste de produits qu'on avait identifiés pour le deuxième volet de la réplique douanière canadienne qu'on avait établie mais qu'on avait laissé tomber quand Donald Trump avait annoncé une autre pause là, jusqu'au début du mois d'avril. L'autre grosse nouvelle, ce matin, le fabricant suédois de batteries Northvolt qui s'est déclaré en faillite dans les dernières heures du côté de la maison mère en Suède. On n'a pas réussi là, à amasser les financements nécessaires pour une survie. On avait des signes de tout ça, là, des centaines d'emplois qui avaient été supprimés dans les derniers mois. On a manqué de temps, manqué de ressources là, pour en arriver à une autre conclusion que justement la faillite. Maintenant, ce qu'on se demande, c'est ce qui va se passer au Québec. Le gouvernement qui veut un nouvel acheteur pour repartir le projet de Northvolt au Québec via un achat de la filiale d'Amérique du Nord. Il y a quand même 270 millions là, qui avaient été investis, qui sont carrément perdus par rapport à la faillite du siège social. Et on continue de dire du côté du gouvernement du Québec que dans le pire des cas, ben, on va récupérer le terrain qu'on avait cédé à Northvolt.
Parlons-en justement de la faillite de Northvolt avec Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Bon mercredi, Gabriel.
Bonjour, monsieur.
Gabriel, analyste économique, tu te lèves un matin, faillite de Northvolt en Suède, tu réagis comment?
Mais qui peut être surpris après la débandade qui a pas tardé, en fait, après l'annonce de la subvention, là, rapidement, là, si on fait juste l'historique, on comprend qu'en septembre 2023, on a un Pierre Fitzgibbon qui nous explique qu'on est maintenant dans la course. Au Québec, c'est le plus beau des projets privés de l'histoire du Québec et de tous les temps du Québec. En septembre 2023, c'est l'annonce de la subvention. Rapidement, en janvier 2024, on commence à faire des travaux préparatoires du terrain. Juin 2024, là, on y parle de 6, 7, 8 mois après l'annonce, BMW annule son contrat de 3 milliards de dollars en raison de retard de production. Novembre 2024, à l'abri des créanciers aux États-Unis. Janvier 2025, le PDG quitte, puis ensuite de PDG Amérique du Nord quitte, puis ensuite de ça, on apprend que c'est la faillite. Donc, la dégringolade est allée rapidement. Comment être surpris de cette approche-là? Je pense qu'on le disait dès le départ. Là, on était sortis pour dire que c'est une mauvaise chose, ce dirigisme économique-là, puis on peut pas vraiment être surpris.
Gabriel, est-ce le pire investissement de l'histoire du Québec?
Pour le moment, là, c'est quand même spécial. Là. Encore une fois, lorsqu'on s'est dit qu'on allait investir conjointement le provincial et le fédéral 2,74 milliards de dollars pour la construction et 4,6 milliards de dollars pour la production. Alors là, on se dit, OK, c'est vous, c'est moi, c'est les auditeurs, c'est l'ensemble des Canadiens qui vont travailler chaque matin, qui se réveillent tôt le matin, puis qui vont envoyer des milliers de dollars par personne pour pouvoir subventionner cette filière-là complète. Je pense que c'est absolument désastreux. Évidemment, pour le moment, le projet du Québec, il est pas encore annulé. Hein. Faut savoir que cette section-là est toujours solvable. Puis effectivement, le syndic qui va reprendre en contrôle la fin de la maison mère pour voir est-ce qu'il va y avoir un rachat ou quoi que ce soit, va potentiellement déterminer, là, selon le communiqué de presse de Northvolt en Amérique du Nord, sur quel sera l'avenir du projet au Québec. Mais il n'en reste pas moins s'il y a beaucoup d'incertitudes. Et vous pouvez être sûr que si la réponse est non, ça ira pas de l'avant. C'est un désastre complet. Ça aurait été le plus gros pétard mouillé de l'histoire là, des investissements privés au Québec. Parce qu'on l'a quand même vendu comme étant le plus gros projet.
Ouais, mais d'ailleurs, Gabriel, okay, question en deux parties. Est-ce la fin ou est-ce que ça devrait être la fin de la saga Northvolt au Québec?
étant donné que ça aurait jamais dû commencer avec l'argent public. Je veux dire, ça aurait jamais dû être le cas. Donc, moi, j'espère que on n'enverra pas 7 milliards de dollars. Il faut quand même regarder la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, en mars 2025. On n'est plus là dans la lune de miel où tout va être électrique, nos vélos, nos voitures, nos avions. Non, peut-être pas les avions, là, mais vous comprenez là, la dynamique qui était en 2022-2023. Aujourd'hui, là, on commence à comprendre que c'est pas possible. On n'a pas la capacité électrique, on n'a pas les infrastructures. Il y a un recul. On ouvre la porte également à abandonner l'obligation de 2035 pour les véhicules électriques neufs, parce qu'on comprend que c'est pas réaliste. On a une administration Trump qui nous explique que ce n'est plus une priorité, ce n'est pas réaliste d'aller de l'avant. Donc le climat politique, mais également la demande, est plus au rendez-vous autant. Je pense que c'est assez clair. Il faut pas aller de l'avant, faut pas jouer avec l'argent des Québécois. C'est vraiment jouer au casino, là. On est vraiment dans une dynamique où on va l'envoyer, cet argent-là, à l'entreprise, puis on verra ce que ça donne. Ça a été beaucoup de communication politique, mais au final, qu'en est-il réellement? On n'aura probablement pas de projet, puis ça va être un autre lion électrique, là. Un vrai flop, peut-être.
Hey, Gabriel, tu m'amènes justement sur un terrain intéressant des véhicules électriques puis de l'obligation pour 2035. T'es pas plus tard que cette semaine, on voyait que plusieurs constructeurs n'y arrivent pas via, justement, les différents programmes gouvernementaux qui ont permis à Tesla de faire la pièce, là, quelque chose comme 324 millions de dollars. Donc, là, on met fin à ça. Il faut arrêter d'avoir ça comme objectif et repousser cet objectif-là. On n'est pas capable de développer Hydro-Québec et en même temps le monde des batteries de véhicules électriques pour arriver à cet objectif-là.
Ben non, on n'a pas le choix d'arrêter ça. Ça, c'est pour vous dire, on a tellement débloqué d'arsenal de politiques publiques, de subventions, d'obligations aux constructeurs pour que tout tende vers le véhicule électrique. Puis malgré ça, là, malgré les milliards de dollars qui ont été dépensés, c'est pas possible. Ouais. Donc, je pense que là, ça suffit, parce que même si c'était... Mettons que le véhicule électrique, c'était la meilleure chose et que les gens pourraient pas s'en passer, ben, il y aurait de la demande. La demande, elle viendrait de toute façon. Un peu comme quand on est passé là, de la calèche au véhicule, ben les véhicules ont pris le dessus. Si le véhicule électrique était aussi incroyable que ça, si c'était aussi incroyable que la révolution d'Internet, ben la population, là, elle l'adopterait. Donc, en réalité, ce qu'on constate, c'est que c'est pas le cas. Puis de vouloir enfoncer dans la gorge des gens des véhicules électriques, ça ne fonctionne pas. Malgré toutes les bonnes intentions, malgré toutes les subventions à coups de milliards de dollars, je pense que c'est assez clair que ça n'arrivera pas. Et le gouvernement du Québec, et du Canada également, mais du Québec, doit vraiment, vraiment avoir une réflexion sur sa vision politique, de penser qu'il comprend mieux que les gens, ce qui est bon pour eux, puis de se dire, moi, je vais faire une politique industrielle, je vais prendre l'argent, puis je vais l'envoyer à des entreprises privées, dont leur feuille de route est encore à démontrer, hein. C'est une jeune pousse quand même, on nous le vendait pas comme ça, mais je pense que c'est assez clair que c'est une jeune pousse trop ambitieuse, et donc on va perdre de l'argent, puis ça s'inscrit également dans une perspective d'aléa moral, là. C'est sûr que si vous recevez 5 milliards de dollars des gouvernements, là, ça va arrêter 7 milliards de dollars, ben vous êtes peut-être plus enclin à prendre des risques, puis si c'était de l'argent privé, si c'était votre argent à vous, vous auriez pas pris. C'est ça le problème, c'est que dans cette dynamique-là, on a l'impression qu'on dépense beaucoup trop, puis on se dit, ben si c'était pas notre argent, je pense qu'il aurait été beaucoup plus prudent avec la leur.
Ouais. Gabriel, on connaît pas la suite de Northvolt au Québec, on connaît maintenant la faillite du côté de la Suède, mais la situation actuelle, c'est pas juste une autre tuile qui tombe sur la tête de la CAQ, c'est peut-être la maison au complet?
Écoutez, je pense que c'est évident que c'est très mauvais pour la CAQ, ce type d'approche-là, parce qu'encore une fois, on nous l'a vendu comme étant le grand projet, et si vous y croyez pas, ben vous n'étiez pas encore arrivé à l'ère moderne, essentiellement. C'est évident que de dire qu'il faut aller de l'avant avec ce projet-là comme la CAQ l'a fait, c'est une mauvaise chose. Puis là, on le voit très bien, là. Ça pourrait ne pas aller de l'avant. Puis vous parlez du terrain plutôt, parce que ça nous a déjà coûté plus que 200 millions de dollars, qu'on retrouvera jamais la couleur de cet argent-là. Le terrain a coûté 240 millions. On se dit, oui, mais Gabriel, il y a une garantie, on a une hypothèque sur le terrain. Mais qui va acheter ce terrain-là? Ouais. Il y a ça aussi. Est-ce qu'on va l'avoir au prix qu'on l'a payé? Ça, c'est une autre histoire. Donc, le réel coût pourrait être plus élevé. C'est pas juste une question de « Ah, c'est juste 200 millions ». Je pense que 200 millions, c'est énorme. Puis, il y a beaucoup de Québécois et Québécoises qui auraient pu se dire « Ben, ça aurait fait, évidemment, pas le 200 millions, mais si on l'aurait distribué à l'ensemble des contribuables, ça fait de l'argent, ça fait quelques dizaines de piastres, ça fait une différence ». C'est évident que le gouvernement du Québec va se ressortir affaibli de cette situation-là, parce que c'est pas la première. La filière batterie au complet, on voit que c'est une filière qui a été artificialisée par le politique. C'est pas une demande de marché, ça a été, on va concocter ça, là, en obligeant les gens à acheter des véhicules, en donnant leur argent pour des subventions à l'achat, en donnant leur argent à des subventions aux entreprises étrangères, puis au final, on voit que c'est un château de cartes qui tombe.
Ouais, ça a toujours fonctionné, les gouvernements qui décident du marché. Blague à part, Gabriel, je termine avec une dernière question pour toi. On parle énormément de la CAQ, mais il y avait un autre joueur dans l'équation qui était le Parti libéral du Canada. Je comprends qu'avec les programmes gouvernementaux fédéraux, il n'y a pas d'argent qui a été dépensé encore. Mais quand même, en campagne électorale, le Parti conservateur du Canada doit faire ressortir ce fiasco-là pour marquer des points au détriment du PLC. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Ben, ils n'ont pas le choix, là. T'sais, c'est un vrai flop pour le moment, là. Puis il faut quand même dire que Volkswagen, ça va pas si bien que ça également, là. Il y a des milliards de dollars qui ont été promis à Volkswagen. Je pense que le Parti conservateur du Canada doit se dire, là, clairement, ça n'a pas été une bonne approche du gouvernement. Encore une fois, on nous l'a vendu comme si c'était mais la prochaine industrie, là.
La Bay James.
C'était la Bay, exactement. C'était l'équivalent, là, de la Bay James, de tous les barrages hydroélectriques. C'était le secteur du 21e siècle, mesdames et messieurs. Puis au final, ben, qu'on constate, c'est encore une fois, c'est un pétard mouillé, probablement. Puis ben, il va falloir que quelqu'un paye politiquement là-dessus, parce que c'est les concitoyens, c'est les Canadiens, les Canadiennes, les Québécoises qui ont payé avec leur poche. À un moment donné, ça suffit, là. Je pense qu'il faut juste leur laisser dans leur poche, puis s'assurer qu'on a un cadre réglementaire beaucoup plus intéressant et un cadre fiscal plus intéressant au Québec, puis on va avoir de l'investissement, pas besoin du gouvernement.
Le Saint-Graal qui devient un pétard mouillé, c'est une belle image, ça va bien. Ouf! Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Gabriel, merci pour ton temps ce matin. Tu sais, c'est toujours un plaisir, mon ami.
C'est un plaisir partagé. Passez une belle journée, messieurs.
À bientôt.
Salut.
Aïe. Là, c'est complètement capoté. Puis je sais qu'on va revenir sur à la fois Nordva, tous les sujets de ce matin, tantôt. Tu sais pas qu'est-ce que tu croiras pas à ça.
Non, quoi?
Max m'a écrit.
Breaking dit, news?
Ouais, mais autre sujet même. Hein? Il y a quelque chose. Vas-y, pas Max. Tarif, pas Doug Ford, ça a de l'air. Pas Nordvolt.
On revient dans le municipal. La Ville de Québec a annoncé ce matin la fin du processus de médiation entre elle et la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec. On explique que cette décision-là a été prise parce que les échanges entre les parties n'ont pas permis de progresser vers une entente. On a dit que les positions des deux parties demeurent trop divergentes pour permettre une solution négociée dans un délai raisonnable. La convention collective entre la Ville de Québec et la Fraternité des policiers, qui a pris fin à la fin de l'année 2023, il y avait eu 17 séances de négociation. Le ministre du Travail, qui avait désigné ensuite un médiateur conciliateur pour intervenir dans le dossier à la demande de la Ville. Les parties qui se sont rencontrées à 15 reprises dans le cadre de ce processus-là. Et là, le ministère du Travail a déjà informé les parties que le différend sera soumis à un conseil d'arbitrage que la Ville s'engage à respecter.
Aïe. Donc, on va régler ça avec l'arbitrage. Ça va faire mal pour la campagne électorale de Bruno Marchand.
Ouais.
Faut absolument qu'il règle avec l'école bleue rapidement pour justement dire, ben regardez, au moins j'en ai réglé 4 sur 5, mais les policiers, ça va faire mal parce qu'il y a tout le schéma de couverture de risque là, par rapport à ça. La mort de Jacques Côté à Lac-Saint-Charles. On a parlé beaucoup de priorité 1, priorité 2, ouais. Plus de véhicules dans certains arrondissements, tous les problèmes de sécurité publique qu'il y a, la hausse des gangs criminalisés à Québec, alors de ne pas s'entendre avec les policiers là-dessus, ça fait mal pour tous ces enjeux-là.
En musique, 9h22, voici Muse avec Starlight dans Rage Against le matin.